Nous sommes sur le contrefort de l'Hermont. On a fait ce tournant là. Et ici alors, nous allons reprendre notre lecture du Nouveau Testament. Jésus emmène ses disciples vers les villes de Césarée de Philippe. Tenez, on a devant nous une forteresse impressionnante qui s'appelle Nemrod ou Soubeïta. Et alors si vous descendez à droite là, dans l'échancrure, vous avez Dan, c'est-à-dire l'extrémité nord de la terre promise. Nous sommes beaucoup plus haut maintenant, et comme dans le Cantique des Cantiques, vous vous rappelez, abaisse tes regards, fais ta rentrée. Je vous retrouve le texte ici dans le Cantique des Cantiques. Viens du Liban, ô fiancé, viens du Liban, fais ton entrée. Abaisse tes regards des cimes de l'Amana, des cimes du Sanir et de l'Hermon. Je vous ai montré les grands rythmes de la géographie, de l'histoire sainte dans l'Ancien Testament. On rebondit sur l'Hermon et puis on monte à Jérusalem. C'est encore plus vrai dans l'Évangile. Je prends surtout saint Matthieu, quitte à par-ci par-là à donner quelques précisions en me reportant aux autres évangiles synoptiques. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question, au dire des gens, qu'est le Fils de l'homme? Hier c'était quel est cet homme qui, maintenant Jésus nous interpelle, qu'est le Fils de l'homme? Ici quelque chose qui risquerait de manquer à votre compréhension, c'est qu'est-ce que ça veut dire le Fils de l'homme? Dans la tradition biblique de l'Ancien Testament, ça peut vouloir dire plus que Fils de Dieu. Fils de Dieu, David est Fils de Dieu, beaucoup sont Fils de Dieu, de juste, les anges sont Fils de Dieu. Mais alors le Fils de l'homme, c'est un personnage mystérieux dont on parle beaucoup au temps de Jésus, qui apparaît dans le livre de Daniel, et qui est commenté dans des apocryphes très courants à l'époque d'Enoch ou d'autres. Je vous lis le passage supposé connu. « Voici venant sur les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il s'avança jusqu'à l'Ancien, avec un grand A, et fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tous les peuples, les nations et les langues le servirent. Son empire est un empire éternel qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. » Nous avons les textes fondamentaux de l'attente messianique, Daniel 7, et Jésus reprendra l'expression pendant le procès, vous verrez le Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est une expression que Jésus semble avoir employée de préférence, parce que ça lui permettait à la fois de prendre ses distances par rapport aux espérances messianiques de son époque, telles qu'on les formulait souvent maladroitement. Vous voyez, le Fils de l'homme, ça peut vouloir dire un Barnache, un Ben Adam, un type, un bonhomme. Et puis ça pouvait aussi faire allusion, et les gens ne s'y trompaient pas, qui connaissaient ces textes à son époque, ça peut faire allusion aux espérances messianiques. La venue d'un empire sur les ruines de tous les empires qui se sont succédés, qui ont persécuté le peuple élu, dans Daniel et dans Enoch. Qui les gens disent, qu'est le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou quelqu'un des prophètes. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Quand on a commencé le mouvement œcuménique il y a très longtemps, dans les années 20, on a cherché quel était le dénominateur commun à partir duquel on pouvait se dire chrétien. Et on a trouvé comme dénominateur commun, dire Jésus est Seigneur. C'est la confession de Pierre. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Si on dit Jésus est un grand homme, c'est un grand poète, c'est un merveilleux équilibre psychologique, tout ce que vous voulez, vous n'êtes pas encore chrétien. Être chrétien, c'est dire, on ne peut le dire que dans l'Esprit Saint, Jésus est Seigneur. En réponse, Jésus lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Encore une chose ici qui risquerait de manquer à votre connaissance. J'ai mis dans la brochure bleue que je distribue une référence à un article très intéressant que vous trouverez dans la revue de Louvain, d'un certain prêtre, d'un dominicain qui s'appelle Van Kang, qui a étudié justement la primauté de Pierre à la lumière de la tradition juive. Qui remarque simplement qu'il y a 6 jours entre la prononciation du nom, comme à Kippour, le grand prêtre derrière le voile qui prononce le nom de Dieu, et puis la fête de Soukhot, en faisant 3 tentes, la transfiguration pour nous. Et ça va très très loin son article. Et Simon, fils de Jonas, ça ferait allusion, pour moi c'est devenu presque une évidence, je pense, au plus célèbre des grands prêtres dont on parlait à l'époque de Jésus, Simon, fils d'Onias, au chapitre 50 du Siracide. Le grand prêtre qui nous est justement évoqué au chapitre 50 comme le grand prêtre qui officie le jour de Kippour. Vous connaissez ce que c'est Kippour, ben c'est le prêtre. Le grand prêtre, une fois par an, pénètre par-delà le voile, il prononce le nom de Dieu et puis il obtient la purification des péchés. Qu'il était magnifique entouré de son peuple quand il sortait de derrière le voile, vous direz tout le chapitre. Alors les fils d'Aaron poussaient des cris et soudain avec ensemble le peuple tombait la face contre terre. Le peuple suppliait le Seigneur jusqu'à ce que fût terminé le service du Seigneur, et il descendait, élevait les mains, et pour donner à haute voix la bénédiction du Seigneur et avoir l'honneur de prononcer son nom. Pierre ici vient de prononcer le nom, Simon fils d'Onias. Alors pour la première fois, le peuple se prosternait. Et à Kippour, vous vous rappelez aussi, le grand prêtre recevait le pouvoir de purifier le peuple de ses péchés. Continuons le récit à la lumière de ces textes supposés connus. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, Simon, fils d'Onias. » Allez voir l'article du père Van Kang. « Car cette révélation t'est venue, non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. » Et alors sur cette prononciation du nom, sur cette confession de Pierre, et Pierre c'est Caïapha, encore une fois, vous rappelez, c'est le même nom que le grand prêtre en fonction à cette époque-là. « Moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Quelquefois dans les traditions, les premières traductions, on traduit par « tsour », je pense qu'on rate l'occasion de montrer, de souligner un rapprochement qui est voulu par saint Matthieu. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lis sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Comme le grand prêtre a le pouvoir de purifier des péchés. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Et cette pédagogie du Christ qui se développe, ces apôtres qui l'ont accompagné depuis des mois et qui ont marché avec lui jusqu'à l'extrémité nord du pays sont mûrs, semble-t-il. Pierre vient de confesser son nom. Mais alors, pour eux seuls, les autres comprendront en leur temps. On procède par étapes. Et ici, vous avez un tournant, pas seulement géographique, mais un tournant dans la révélation évangélique. Le Seigneur a jusqu'ici laissé deviner à ses apôtres le mystère de sa personne. Et maintenant qu'ils l'ont deviné, que Pierre a prononcé sa confession, il commence à les initier à ses options messianiques, à cette voie étroite qui, par la croix, va le conduire à la résurrection. À dater de ce jour, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait monter à Jérusalem. Et cette phrase, il lui fallait, sera reprise dans la route d'Emmaüs. Ne fallait-il pas ? Commence ici quelque chose que rétrospectivement, on vérifiera sur la route d'Emmaüs. Qu'il lui fallait monter à Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Alors Pierre, c'est merveilleux, il est là pour dire ce que tout le monde pense. Prenez un jour votre évangile et faites un catalogue des réflexions de Pierre. Oui, nous sommes rencontrés à travers tous les personnages de l'évangile, l'un à travers la Samaritaine, l'autre à travers le centurion, l'autre à travers Nathanaël, que sais-je. Et nous sommes rencontrés même à travers les personnages de l'Ancien Testament qui sont en route vers le Christ. Mais alors il y en a un à travers qui tout le monde est toujours rencontré, c'est Pierre. Et c'est pour ça que c'est l'ordinaire du lieu, comme on dit en droit canon, ordinarius loci, celui qui est là. Celui qui est là et qui est, c'est très difficile de trouver quelqu'un d'ordinaire dans ce sens-là. Il y a tellement de gens extraordinaires, mais les gens ordinaires capables de mettre de l'ordre, de devenir supérieurs, c'est très difficile à trouver. Il souffrit beaucoup, oui, Pierre. Alors Pierre, qu'est-ce qu'il dit ici ? Il se mit à le morigéner en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera point. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre « Passe derrière moi, Satan. » Jésus formule ici ses options messianiques et saint Pierre a l'air de se faire l'interprète de ce Satan qu'on voit figurer dans le récit de la tentation sur la montagne qui domine Jéricho au début de son ministère public. « Passe derrière moi, Satan. Tu me fais obstacle. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et ce miracle qu'on a évoqué hier de Bethsaïde, on en a tous besoin pour accéder à la folie de Dieu qui est plus sage que la sagesse des hommes et au scandale de la croix. Et alors à ce moment-là, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix, chaque jour, ajoute saint Luc, et qu'il me suive. » Et la croix à cette époque-là, c'était pas un bijou qu'on pendait autour du cou. C'était quelque chose de tellement effroyable qu'on ne voulait pas y penser. Et rares étaient ceux qui n'avaient pas eu l'occasion, un jour ou l'autre dans leur vie, de voir un de ces crucifiés. On dit que lors de la révolte de Spartacus à Rome, il y en avait tout le long de je ne sais plus quelle voie, la voie appienne ou une autre. Et lors du siège de Jérusalem, il y en a eu des centaines et des centaines qui ont été crucifiés. Ça pouvait durer 3 jours et le supplicié mourait par une sorte de tétanisation de la cage thoracique lorsqu'il ne pouvait plus se lever sur ses jambes. Il était cloué au poteau. Et c'est par miséricorde qu'on cassait les jambes des condamnés pour abréger leur agonie. C'était tellement affreux qu'on ne voulait pas y penser. Dans l'époque chrétienne, on fera des repentances réalistes seulement quand on aura perdu le souvenir de ces souvenirs. Bon, au Moyen-Âge, dans la dévotion moderna, le retable de Grunewald. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie? Et que pourra donner l'homme en échange de sa propre vie? C'est qu'en effet, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité, je vous le dis, il en est d'ici présent qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant dans son royaume.